Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, Le Monde Aujourd'hui, édition du mercredi 6 janvier 2021. Bonjour et bienvenue. La Banque mondiale a livré mardi un diagnostic pessimiste de l'économie mondiale malade du Covid-19 et a averti que son rétablissement dépendra en grande partie de la rapidité du déploiement des campagnes massives de vaccination. L'Allemagne augmente les critiques contre une campagne de vaccination jugée trop lente à prolonger et renforcer mardi ses restrictions contre la pandémie du Covid-19, dont la fermeture des écoles et commerces jugés non essentiels. L'Angleterre et l'Écosse ont réinstauré le confinement mardi face à l'accélération de la pandémie de Covid-19. L'équipe de l'OMS chargée d'enquêter sur l'origine du Covid-19 en Chine est en route, mais n'a pas reçu tous les visas nécessaires, a annoncé mardi le chef de l'agence de l'ONU, se disant très déçu par Pékin. Ici aux États-Unis, le président américain Donald Trump a confirmé qu'il s'exprimerait aujourd'hui, mercredi, à Washington, devant ses sympathisants, qu'il a appelé à manifester le jour même où le Congrès va officialiser sa défaite à la présidentielle. Plus de 2 mois après le scrutin, Donald Trump n'a toujours pas reconnu la victoire du démocrate Joe Biden, évoquant des fraudes, ayant échoué à convaincre les tribunaux et les responsables électoraux, mais a semé le doute dans l'esprit d'une partie des républicains. Centrafrique, 10 candidats de l'opposition ont demandé mardi l'annulation de la réélection du président Faustin Archange Touadéra dans un scrutin qu'il juge discrédité, n'ayant permis qu'à un électeur sur 2 de pouvoir voter dans ce pays où la guerre civile est ravivée par une nouvelle offensive rebelle. L'autorité des élections, ANE, a commencé mardi à égrener les résultats des législatives, mais dans 82 circonscriptions où le vote a pu avoir lieu sur 140, 21 candidats ont été élus dès le premier tour, dont 6 du parti de M. Touadéra, tous les autres qualifiés se donnant rendez-vous pour le second tour prévu le 14 février. Le prix Nobel de la paix congolais Denis Mukwege a salué mardi l'arrestation la veille en France d'un ex-chef rebelle congolais pour complicité de crimes contre l'humanité commis en 2002 en République démocratique du Congo. L'arrestation et la mise en examen de M. Roger Lumbala à Paris est un pas important pour la justice internationale et la lutte contre l'impunité dont de nombreux auteurs présumés congolais et étrangers continuent de bénéficier, a écrit dans un communiqué le célèbre gynécologue. Roger Lumbala a été arrêté samedi en France dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte en décembre 2016 par le pôle crime contre l'humanité du parquet de Paris. Un militant des droits humains en Tanzanie, Tito Magoti, a été libéré mardi après avoir plaidé coupable de crimes économiques au terme d'un an de détention, a annoncé sur Twitter son avocat. M. Magoti, qui travaille pour le Legal and Human Rights Center, avait été interpellé en décembre 2019 à Dar es Salaam, la capitale économique de la Tanzanie. Il avait été inculpé de crimes économiques, notamment de blanchiment, de possession d'un programme informatique destiné à une infraction et direction d'organisation criminelle. Au Burkina Faso, au moins 6 personnes, dont 2 supplétifs civils des forces de sécurité burkinabées dans la lutte anti-djihadiste, ont été tués lundi lors d'une attaque dans le nord du pays, près de la frontière malienne. Les assaillants, au nombre d'une centaine, selon un élu, ont attaqué le village de Lumbila, situé à 35 km de Ouyahouya, le chef-lieu de la région du nord. Cette attaque se vient alors que le Niger voisin a enregistré samedi la plus meurtrière attaque imputée à des groupes djihadistes contre des civils au Sahel et qui a donc fait 100 morts. VOA Afrique Info en ligne de mire dans ce journal, réunion du Congrès américain aujourd'hui pour la validation finale du résultat de l'élection présidentielle ici aux États-Unis, mais des élus ont promis d'exprimer leurs objections et de faire résonner les allégations de fraude au sein même du Capitole. Le Sénégal déclare l'état d'urgence, impose un couvre-feu pour lutter contre la pandémie du coronavirus. Vous entendrez le message du président Macky Sall. L'armée française dit avoir neutralisé des dizaines de combattants djihadistes dimanche, mais l'on déplore des dommages collatéraux après les frappes aériennes dans un village du Mali, près de la ville de Douenza. Et après l'espoir, analyse du vote serré en Géorgie, ici aux États-Unis, pour le contrôle du Sénat américain. À tout à l'heure, dans quelques secondes. La suite de nos informations en ce mercredi 6 janvier 2021. Ici aux États-Unis, la Chambre des représentants et le Sénat se réunissent aujourd'hui, mercredi, pour certifier les résultats de la présidentielle du 3 novembre. Le président Donald Trump, qui continue de rejeter les résultats, a appelé à une manifestation à Washington. Le point avec Abdourahman Dia.
Le locataire de la Maison Blanche a demandé à ses partisans de se mobiliser en masse pour mettre la pression sur le Congrès afin qu'il rejette les résultats dans certains États qu'il a perdus, ce qui fait craindre un risque de violence dans la capitale américaine. Lundi, le leader de la milice d'extrême droite Proud Boys a été arrêté à Washington. Enrique Torrio, 36 ans, a été arrêté sur la base d'un mandat d'arrêt délivré suite à sa participation à la destruction d'une bannière Black Lives Matter appartenant à une église de la capitale américaine lors d'une manifestation précédente le 12 décembre qui avait dégénéré. Au moins 13 sénateurs et 140 membres de la Chambre, tous des républicains, promettent qu'ils objecteront à la confirmation de la victoire de Joe Biden dans certains États où ils considèrent qu'il y a eu fraude. Cette démarche, perçue comme un serment de fidélité à Trump, pourrait retarder la confirmation de la victoire de Joe Biden, mais ne peut pas l'empêcher selon plusieurs constitutionnalistes. Le locataire de la Maison Blanche est choisi au suffrage universel indirect. Le collège électoral a entériné le 14 décembre la victoire du démocrate Joe Biden face à Donald Trump. Le vote au Congrès ce mercredi doit ouvrir la voie à la prestation de serment le 20 janvier du 46e président des États-Unis.
Au Sénégal, le président Macky Sall a décrété un nouvel état d'urgence assorti d'un couvre-feu partiel de 21h à 5h du matin dans les régions de Dakar et Thiès qui concentrent la majorité des cas positifs. Ces mesures prennent effet à partir de ce mercredi à 21h. L'annonce a été faite par le chef de l'État sénégalais lui-même.
J'ai ainsi, suite aux recommandations du corps médical, décidé de décréter l'état d'urgence sur deux régions dans un premier temps, sur l'étendue de la région de Dakar et celle de Thiès, à compter de demain, 6 janvier 2021. Bien entendu, cet état d'urgence sera assorti d'un couvre-feu allant de 21h à 5h du matin dans ces deux régions, qui concentrent plus de 90% des cas de COVID au plan national. J'invite dès lors les membres du gouvernement à prendre, chacun en ce qui le concerne, toutes les mesures relevant de leur secteur, afin d'assurer l'application rigoureuse de l'état d'urgence sur le territoire concerné. Dans ce contexte, je demande aux populations de se conformer aux dispositions de prévention individuelle et collective, en évitant les déplacements non essentiels, même pendant la journée, les rassemblements et autres réunions publiques et privées.
C'était le président de la République du Sénégal, Macky Sall.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'armée française a affirmé avoir frappé des dizaines de djihadistes dimanche dans le centre du Mali. De leur côté, des villageois et une association locale parlent de civils atteints par un appareil non identifié lors d'un mariage. Michel Joseph.
L'état-major français a affirmé hier qu'une patrouille d'avions de chasse a neutralisé des dizaines de djihadistes qui ont été repérés après une opération de renseignement de plusieurs jours. Des villageois joints sur place ont rapporté une frappe d'hélicoptère sur une foule assemblée pour un mariage. Cela a été le sauve-qui-peut, selon Amadou Ghana, qui affirme que 19 personnes ont été tuées et plusieurs gravement blessées. Tabital Koulakou, une association Peul, a fait état d'une frappe aérienne dimanche qui a coûté la vie à une vingtaine de civils au cours d'un mariage. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affiliés à Al-Qaïda a revendiqué une attaque qui a coûté la vie samedi à deux soldats français dans le centre du Mali. Ce groupe djihadiste dit avoir fait exploser un engin au passage d'un véhicule, ce qui porte à 5 militaires français tués en moins d'une semaine au Mali.
Les relations diplomatiques entre le Qatar et les quatre pays arabes qui le boycottaient depuis plus de 3 ans, a annoncé hier le ministre saoudien des Affaires étrangères à l'issue d'un sommet des monarchies du Golfe à Al-Ula en Arabie Saoudite. Nathalie Barge.
Il a été décidé, grâce à la sagesse de dirigeants du Golfe et de l'Égypte, de tourner la page et de rétablir toutes les relations diplomatiques avec le Qatar, a déclaré à la presse le prince Faisal Ben Farhan Al Saoud. Nous affirmons notre solidarité et la stabilité du Golfe et des pays arabes et musulmans, avait annoncé le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman à l'ouverture du sommet, lors duquel les participants ont signé un accord pour mettre fin au blocus contre le Qatar. À l'issue du sommet, le prince saoudien a rencontré l'émir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani. La rencontre bilatérale a été consacrée au développement des relations entre les deux pays et de l'action commune des pays du Golfe. L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn et l'Égypte avaient rompu en 2017 leurs relations diplomatiques avec le Qatar, l'accusant de soutenir des groupes islamistes et de s'entendre avec leurs adversaires iraniens et turcs. Doha a toujours démenti ces allégations.
C'est maintenant l'heure de la Minute Éco, présentée par Claire Morin-Gibou.
Au Mali, la société Aliyed Gold Corporation est désormais propriétaire de la mine d'or Sadiola. Le géant minier Anglo Gold Ashanti a annoncé la cession officielle de l'actif malien qu'elle détenait en co-entreprise avec la compagnie minière IAM Gold. L'accord de vente a été conclu en décembre 2019, mais les démarches administratives puis le coup d'État ont retardé la conclusion de la transaction et l'approbation du gouvernement malien, qui détient désormais 20% d'intérêt dans CEMOS. Les activités monétaires ont observé une tendance à la baisse dans la zone de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale au cours des 3 derniers mois, affectant notamment le marché interbancaire ainsi que les interventions de la Banque centrale. Affectés par la crise sanitaire liée au coronavirus, les pays de la CEMAC courent le risque de tomber dans la récession. Maroc Telecom a rassemblé toutes ses filiales africaines sous la marque Move Africa. Tigo Tchad est devenu Move Africa Tchad, par exemple. C'est la filiale gabonaise de Maroc Telecom, Move Africa Gabon, qui a été choisie pour mener la campagne de communication commune pour l'ensemble des pays où Maroc Telecom est présent.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouedraogo.
Bonjour à tous. Suite et fin ce soir des rencontres retour du deuxième tour préliminaire des matchs interclubs. En Ligue des Champions, le Wydad Athletic Club de Casablanca reçoit le stade malien de Bamako. À l'aller dans la capitale malienne, les Maliens se sont imposés 1-0. Selon leur coach, Rigo Gervais, ces poulains joueront leur chance pour la qualification à la phase de poule.
Surtout être bien dans la tête, le mental, ne pas reculer, les regarder droit dans les yeux, jouer clairement nos chances de qualification qui est très possible.
Rigo Gervais, coach du stade malien de Bamako, au micro de Siaka Traoré, notre correspondant à Bamako. Victorieux au match aller 2-1, le tout-puissant Mazembe reçoit Bougouindi du Gabon au stade Kamalondo de Lubumbashi. Pamphile Miayo, promu pour la 2e fois entraîneur titulaire du tout-puissant Mazembe, promet la qualification de ses garçons pour la phase de groupe.
C'est la qualification qui prime, surtout. Je crois qu'avec ces peu de temps que j'ai eu à récupérer cette équipe, mais on est en train d'essayer de travailler encore un peu plus durement sur tout le plan pour pouvoir montrer quand même une belle image. Il faut gagner, il faut marquer des buts et il faut faire donner du plaisir, de la joie au public, donc c'est faire le jeu.
Pamphile Miayo, coach du TP Mazembe, au micro de Lucien Kaouzi, notre correspondant Swahili à Lubumbashi en RDC. En face, toujours au micro de Lucien Kaouzi, l'entraîneur de Bougouindi promet que son club, âgé seulement de 4 ans, va défendre valablement les couleurs du football gabonais.
On a beaucoup de respect pour Mazembe, mais ça ne voudrait pas dire que nous sommes venus en victime expiatoire. Non, nous sommes venus parce qu'on pense encore que tout est possible et parce que le football réserve toujours des miracles, donc on croit encore aux miracles.
Ordor Broche, entraîneur de Bougouindi du Gabon. À suivre aussi ce soir, Al Hilal du Soudan, Ashanti Kotoko du Ghana. L'AS Vita Club de Kinshasa reçoit les Young Buffaloes du Lee Swaitini. Ouryad Naguiné joue le Racing Club d'Abidjan. Hier, la surprise est venue de Casablanca où le petit pousset sénégalais Teguff FC a sorti le Raja. L'unique représentant du Sénégal s'est qualifié pour la phase de groupe après sa victoire 3-1 au tir au but contre les Marocains, 0-0 sur l'ensemble des deux rencontres. Les Sénégalais retrouvent ainsi la phase de poule de la Ligue des Champions 15 ans après la Jeanne d'Arc de Dakar. Ça passe aussi pour les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns qui se sont offerts les Botswanais de Swaneng Galaxy, 3-1, de même que pour les autres Sud-Africains de Kaizer Chiefs, vainqueur 1-0 des Angolais du 1er août de Agosto. Le champion en titre à la Ligue d'Égypte s'est qualifié en étriant l'AS Sonidep du Nigeria 4-0 au match retour au Caire. En Coupe CAF, Manungu de la Tanzanie a validé son ticket pour le tour suivant malgré son match nul 3-3 face au Soudanais d'Al Hilal El Obed. 2-0 pour la JS Kabylie d'Algérie qui élimine du même coup l'US Gendarmerie Nationale du Niger. Qualification également pour le Coton Sport de Garoua qui a battu Green Eagles de la Zambie 1-0. Tout comme pour le DC Motoma Pembe qui a sorti 11 Bravos d'Angola battu 2-1. Ça passe aussi pour les Égyptiens de Pyramide FC, vainqueur 3-2 face à Al Ettihad de la Libye. À suivre entre autres rencontres ce soir, FC Esaé du Bénin. TASS de Casablanca, San Pedro de la Côte d'Ivoire reçoit Jaraf du Sénégal ou encore Salitas du Burkina Faso face à Alamal Atbara du Soudan.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon toujours en votre compagnie. À présent, nos dossiers du jour. En République centrafricaine, au lendemain de la publication des résultats provisoires de la présidentielle du 27 décembre, les contestations fusent au sein de la classe politique. Certains candidats rejettent la victoire annoncée de Faustin Archange Touadéra et comptent saisir la Cour constitutionnelle. À Bangui pour VOA Afrique, Freeman Sipila.
Après plusieurs heures de suspens, le président de l'Autorité nationale des élections, l'agence chargée des élections, Mathias Barthélémy Moruba, a annoncé ce lundi 4 décembre dans la soirée.
Conformément aux dispositions de l'article 114 du Code électoral, Monsieur Faustin Archange Touadéra, ayant recueilli la majorité absolue des suffrages valablement exprimés au premier tour de l'élection présidentielle du 27 décembre 2020 avec 346 687 voix, soit 53,92%, est déclaré élu.
Bien que déclaré vainqueur de la présidentielle, Faustin Archange Touadéra a préféré garder le silence en attendant la validation par la Cour constitutionnelle. Même si dans son camp, la liesse est visible, le président réélu, selon l'Autorité nationale des élections, se veut prudent. Au sein de l'opposition, la réaction n'a pas tardé. Anissé Georges Doleguélé, le principal challenger de Touadéra, qui a recueilli 21,01% de voix, ne reconnaît pas ses résultats et compte saisir la Cour constitutionnelle.
Républicain, obstiné et impénitent. Je suis un homme épris de paix et de justice. Et c'est précisément à cause de ces valeurs que je ne m'associerai pas à cette escroquerie électorale, à cette farce qu'on veut servir à mes compatriotes. Je ne reconnais donc pas ces résultats provisoires et déposerai un recours auprès de la Cour constitutionnelle.
Martin Ziguilé, sorti troisième avec 7,46% des voix, dénonce lui aussi des irrégularités.
Je note simplement que depuis que ces élections se sont organisées, nulle part nos représentants n'ont eu droit à un procès verbal. Nulle part les résultats n'ont été affichés pour l'attention des témoins et de toute personne qui souhaiterait voir les résultats. Tout a été mené comme des éléments ultra confidentiel jusqu'à ce qu'on nous proclame des résultats d'élection avec des résultats qui viennent de bureaux de vote de province qui n'ont jamais participé aux élections. Devant cette situation, nous sommes un parti républicain, nous nous réunirons, mais la décision que nous prendrons, c'est d'abord d'user de toutes les voies de droit.
Contestation, mais aussi appel au calme et à l'unité, l'opposant Eddy Symphorien Parikouti réagit depuis la Tanzanie, son pays de résidence.
Que ce soit des élections bâclées, que ce soit soit des élections crédibles, que ce soit des élections transparentes. Mais sinon, les Centrafricains ont été le 27 pour voter. Avant les élections, on se disait on doit respecter les institutions de la République. Après la proclamation définitive, on doit toujours respecter les institutions de la République. Donc je ne vois aucun candidat qui viendra dire que ces élections ne sont pas des élections crédibles et transparentes parce qu'on savait tous qu'ils ne pouvaient pas avoir des élections crédibles et transparentes dans des conditions de guerre, dans des conditions que les groupes armés occupent encore 80% du territoire centrafricain.
Les résultats définitifs de cette présidentielle seront connus le 19 janvier selon un calendrier officiel de la Cour constitutionnelle. Freeman Sipila Bongui pour VOA Afrique.
Au Tchad, la population de N'Djamena vit au rythme du confinement pour contenir la propagation du Covid-19, mais les ministres chargés de l'application de cette mesure n'interprètent pas le document de la même manière. La corporation des journalistes menace de cesser toute activité si les autorités ne prennent pas un acte pour les protéger des bavures policières. André Kouadbajinga, correspondant de VOA Afrique à N'Djamena, fait le point.
Depuis le 1er janvier 2021 à minuit, le décret portant un confinement de la ville de N'Djamena et instaurant le couvre-feu de 18h à 5h du matin est entré en vigueur. Les N'Djamenois sont terrorisés. Tout le monde a peur non seulement du Covid-19, mais aussi peur de recevoir les coups de crosse et matraques des forces de l'ordre. Ces éléments empêchent par tous les moyens certains citoyens qui veulent exercer des activités informelles pour assurer leur survie. Ils font de l'excès de zèle suite à l'interprétation du dit décret par le coordonnateur de l'action gouvernementale. Selon lui, personne ne doit sortir de chez lui. Plusieurs journalistes sont également brutalisés alors qu'ils bravent tous les risques pour informer la population sur des mesures prises par le gouvernement. Colère du président de l'Union des journalistes tchadiens, Abbas Mahmoud Tahir.
Nous en appelons au bon sens du gouvernement de prendre une autre décision permettant aux journalistes d'évader à leurs occupations pendant cette période d'exception. Sans quoi, nous serons dans l'obligation de convoquer une rencontre d'urgence et appeler les médias, les journalistes et les techniciens à rester chez eux jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée.
Le ministre de la Santé publique, Abdoulaye Sabre Fadoul, tente de calmer le jeu. Pour lui, le décret fait mention plutôt de confinement de la ville et non de la population.
Il s'agit d'un confinement de la ville de la ville, c'est-à-dire son isolement par rapport à ses liaisons avec le reste de la ville. Même pas dans ce décret, il est question des confinements de la population. Cet acte du chef de l'État doit s'appliquer sans restriction, mais également sans extrapolation.
L'universitaire Dr Sitak Yombatina Beni estime que les deux ministres font une lecture erronée du texte.
Le décret, il est clair. Mais quand vous dites aux gens ne venez pas au travail, quand vous dites aux étudiants, aux élèves ne pas aller à l'école, quand vous dites aux femmes de fermer leur boutique, quand vous dites aux gens, n'est-ce pas, de ne pas voyager, quand vous fermez, n'est-ce pas, les frontières terrestres, aériennes, etc. Mais c'est pas le confinement, c'est quoi ça? On appelle ça quoi? Donc, la confusion, c'est le ministre de la Santé même qui l'entretient, avec son ministre LGP.
Pour les organisations de défense des droits de l'homme, le décret en lui-même comporte trop de lacunes et restreint la liberté publique. Maître Mbayambe Ndoleta, avocat au barreau du Tchad et vice-président du conseil de gouvernance associative de l'Association pour la promotion des libertés fondamentales au Tchad.
Avec une quarantaine de cas, est-ce que logiquement ça vaut un confinement? Le fond du décret est une entrave grave aux libertés individuelles et collectives. C'est quelque chose qu'on a conçu dans les lieux malsains. Ça veut dire qu'il y a un objectif inavoué.
La présence massive des éléments de force de l'ordre dans les ronds-points et grandes artères suscite un certain nombre d'interrogations. La ville est-elle en état de guerre où le virus circule-t-il librement dans les ronds-points et ne respecte pas le feu rouge sur les grands axes de la capitale? Ou peut-être encore, ces membres des forces de l'ordre sont-ils immunisés contre le coronavirus? Voilà de nombreuses questions qui taraudent l'esprit des citoyens, mais qui sont restées jusque-là sans réponse pour le commun des mortels. André Kodumadingar Ndjamena pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Les 6 pays arabes du Golfe ont signé un accord de solidarité et de stabilité lors du sommet du Conseil de coopération du Golfe destiné à mettre fin au blocus contre le Qatar. Les États-Unis ont contribué aux efforts de rapprochement en vue de contrer la menace nucléaire iranienne. Nathalie Barge a demandé au politologue Jean-François Seznec quels sont les enjeux majeurs de cet accord.
C'est un accord important parce que ça fait revenir le groupe de coopération du Golfe ensemble. Ils étaient séparés depuis 3 ans. C'est très important au point de vue stratégique parce que ça veut dire que maintenant l'Arabie Saoudite et le Qatar et les autres pays du Golfe en fait sont réunis à nouveau et peuvent maintenant beaucoup plus facilement se défendre contre l'hégémonie iranienne. Je pense que l'Iran est la clé de cet accord dans un sens.
Dans quelle mesure les États-Unis et même le Koweït ont-ils permis d'obtenir un tel accord ?
Les États-Unis, tout simplement parce que le président Trump et surtout son beau-fils voulaient absolument obtenir un accord. C'est un accord qui sera très favorable à long terme à Israël et donc à l'intérêt américain en Israël. Et tous les pays du Golfe sont unis maintenant avec Israël contre l'Iran. C'était vraiment une des clés de la politique de Jared Kushner.
Là, on est sur le plan militaire. Au niveau économique, qu'est-ce que cela représente, notamment avec l'ouverture des frontières entre l'Arabie Saoudite et le Qatar ?
C'est important pour beaucoup de gens. Par exemple, la plus grande laiterie de toute la région et presque du monde, d'ailleurs, est en Arabie Saoudite et vend énormément de produits au Qatar. Bon, maintenant, ils vont pouvoir recommencer. Alors, c'est important, mais c'est pas, au point de vue montant d'argent, c'est pas énorme, si vous voulez, parce que le Qatar est quand même un très petit pays. Hein.
Au plan politique, est-ce que l'on a une nouvelle configuration au niveau de cet accord ? Est-ce que l'on revient aux conditions d'avant la dispute avec le Qatar ou est-ce qu'il y a du nouveau ?
Ce qu'il y a, c'est que donc ils vont accepter l'existence des frères musulmans au Qatar, ce qui était en fait l'essence du problème hein, à l'origine. Donc l'Arabie Saoudite a laissé tomber cette exigence et le Qatar va pouvoir donc continuer comme avant. Alors, ce sera certainement pas entièrement comme avant, mais enfin, ça va tôt ou tard, on va revenir au statu quo ante.
Jean-François Seznec, chercheur à l'Atlantic Council et au Middle East Institute, ici même à Washington. Les électeurs de l'État de Géorgie vont jouer un rôle crucial dans la détermination de l'équilibre des pouvoirs aux États-Unis au cours des 2 prochaines années. Ils étaient aux urnes hier mardi pour départager au second tour 2 sièges du Sénat américain âprement disputés entre démocrates et républicains. Catherine Gibson, correspondante de VOA au Congrès, fait le point depuis Atlanta en Géorgie. Le récit est de Lionel Gaïma.
Le président Donald Trump s'est rendu lundi en Géorgie. Il a encore une fois décrié la fraude électorale, mais a répété aux électeurs qu'ils doivent se rendre une fois de plus aux urnes pour réélire Kelly Loeffler et David Perdue pour permettre aux républicains de maintenir le contrôle du Sénat. Le Marcotte, un partisan de Trump en Géorgie.
J'avoue avoir voté avec un certain scepticisme à cause de ce qui s'est passé la première fois.
Les partisans du président estiment que vaincre les challengers démocrates John Ossoff et Raphael Warnock est tellement important que cela permettra de surmonter leurs doutes suscités par les allégations de fraude électorale. Mark Ice, un autre partisan de Trump en Géorgie.
Ils vont avoir le pouvoir, la Chambre et le Sénat. C'est le pouvoir le plus extrême qu'ils puissent avoir contre le contribuable. Nos impôts vont augmenter, ils vont essayer de nous enlever nos armes, mais ça peut devenir très moche. J'ai peur que si les démocrates agissent comme ils le souhaitent, cela pourrait devenir vraiment moche.
Le président élu Joe Biden, qui a remporté la Géorgie par moins de 12 000 voix, est lui aussi venu à la rescousse lors d'un meeting lundi à Atlanta.
En élisant John et le révérend, vous enverrez un message puissant à ce pays.
Ces marges étroites dans un État traditionnellement républicain signifient que les démocrates doivent faire un gros effort pour mobiliser les électeurs. Sean Watkins, bénévole de la campagne du candidat démocrate Ossoff.
En fait, je n'étais pas tellement en politique il y a peut-être 2 ans, mais à cause de tout ce qui se passe avec Trump, cela m'a donné envie de sortir et de faire des choses comme ça. Et j'espère vraiment que les gens vont sortir et changer les choses pour le mieux.
Kera Aline, une autre bénévole de la campagne Ossoff.
À mon avis, c'est juste le comportement typique de Trump. Bien sûr, il ne peut pas accepter les résultats si facilement.
Un nombre record de 3 millions de Géorgiens ont déjà participé au vote anticipé. Si les démocrates remportent ces deux sièges au Sénat, la vice-présidente élue Kamala Harris sera le vote décisif. Après une élection présidentielle très serrée, bien sûr, les résultats pour ces deux sièges de sénateurs de la Géorgie vont encore se faire attendre.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Présentation Jean-Roger Billon, mise en onde Michel Joseph. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Excellente journée à tous.